Il y en a quelques-uns qui vont bien. Je dis, si vous n'allez pas bien avec un mois d'avril, comme celui que l'on vit, vous n'êtes pas prêt d'être heureux en métropole. C'est beau ce qui se passe dehors. Et il y a une joie dans mon cœur. On a commencé la semaine dernière une série qui nous parle de ce combat au-delà du visible. Parce que beaucoup de nos problèmes ne sont pas seulement des problèmes très concrets, matériels, sentimentaux, conflictuels, peut-être au travail. Il y a des fois des ramifications plus profondes. Derrière la partie visible de l'iceberg, il peut y avoir des combats spirituels. Et c'est le thème que l'on voit depuis la semaine dernière. Voici la petite bande-annonce qui nous rappelle le titre des Éphésiens. Effectivement, des autorités, des puissances dans le lieu céleste qui essaient de tirer les ficelles dans certains de tes combats, de tes chaînes, de tes attaques, de tes luttes. Et tout n'est pas visible. Une partie est invisible. Qui dit spirituel ne veut pas dire mystique, comme si on devait chasser forcément et prendre puissance dans des autorités, des lieux qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. La personne qui est attaquée, c'est ta personne. Corps, âme, esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, qui a passé plusieurs mois de sa vie, probablement plusieurs années, attaché. Vous savez que l'apôtre Paul était en situation de surveillance en permanence. Il avait un officier romain qui était en permanence attaché à lui. Donc l'armure du combattant, la panoplie du soldat romain, il la connaît par cœur. Et lorsqu'il écrit l'épître aux Éphésiens, il prend exemple en disant, vous savez, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais spirituellement, il se passe quelque chose dont le visible peut nous inspirer. Et il prend l'exemple, première partie la semaine dernière, faites attention, mettez la ceinture de la vérité à vos reins. Et j'avais abordé, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais j'avais abordé le fait que c'est plus qu'une ceinture de 4 cm. C'est une ceinture qui protège tes reins, et d'ailleurs c'est la notion en hébreu, c'est le siège de la vie, et c'est les parties. C'est-à-dire que c'est toutes les parties dont on n'est pas fier, qu'on veut cacher. Et c'était ça, et c'est très étonnant que l'apôtre Paul commence par ça. Mais il sait très bien que si un chrétien, par rapport à tout ce qui est de la sexualité, est attaqué, ça le rend particulièrement vulnérable et particulièrement fragile. Et l'adversaire, le diable, cherchera en premier lieu à te démobiliser, à te casser, avant même que tu puisses te mettre en bataille et prendre les chaussures, le bouclier, etc. Il va essayer de te détruire directement avant le combat. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « mettez bien une ceinture pour protéger tout ce qui est votre sexualité ». Pourquoi ? Aujourd'hui, et il dit bien la ceinture de vérité. Le problème, c'est que la sexualité, on est inondé de sexualité, il y a du tout et du n'importe quoi, et du coup les pasteurs osent péniblement l'aborder, et quand on le fait, on utilise le mot pornographie, et déjà voilà, certains pasteurs prennent le boulevard et vont beaucoup plus loin et parlent énormément de ça, en critiquant, en fustigeant, et du coup, toute la sexualité presque devient suspecte de péché. Et j'avais osé aborder un thème qui est vraiment difficile à aborder. Je m'attendais à avoir des emails, je m'attendais à avoir des textos, j'en ai reçu quelques-uns, c'est pas étonnant. Mais je vais réexpliquer une dernière fois très courtement ce que je dis. Je dis, la sexualité, il faut être vrai. Qui dit être vrai, il faut rien rajouter, rien enlever par rapport à ce que la Bible dit. Le mot masturbation, par exemple, n'est pas dans la Bible. Et du coup, on a une espèce de vide théologique. Et il est difficile de savoir qu'est-ce qu'est le vrai là-dedans. Alors, il y a des pasteurs qui vont dire, voilà, je condamne ça au nom de Jésus, je chasse, etc. Et je vous ai dit, quand Jésus nous parle de la sexualité, il dit que c'est quelque chose de Dieu, quelque chose de bon, quelque chose de naturel, quelque chose qui est fait pour que l'homme et la femme puissent s'attacher et devenir une seule chair. Et c'est une des premières innovations que Dieu a fait sur la terre. C'est une idée géniale, la sexualité. Mais aujourd'hui, c'est quand même globalement un tabou. Et en tant que chrétien évangélique, né dans une famille évangélique très protégée, la sexualité pour moi, c'était un défi et une difficulté permanente pour pouvoir se dire... Est-ce que j'ai le droit de prendre la Sainte Seine? Est-ce que je suis en état de sainteté? Et c'est le premier aspect qui est attaqué dans vos vies, notamment dans une église comme à Créteil où c'est 26 ans de moyenne d'âge. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai séparé la semaine dernière. Le péché dans la sexualité, c'est le fait de s'attacher à quelqu'un visuellement par la pornographie ou physiquement avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint avec lequel tu as fait une alliance de fidélité. L'alliance de fidélité s'appelle un mariage dans toutes les civilisations. Et si tu veux éviter l'engagement et simplement prendre le sexe par rapport à la parole de Dieu, c'est un péché. Maintenant, on vient au thème de la masturbation. Et là, on a un problème qui est aussi physiologique, qui n'est pas que pornographique. Sauf que tout est globalisé dans notre tête et c'est assimilé à un seul ensemble. Donc on se dit masturbation égale pornographie, égale péché, égale sale, etc. Malheureusement, c'est vrai pour une grande partie d'entre vous parce que depuis que vous avez connu le Seigneur, tout est mélangé. Et en fait, c'est dommage parce que ce qui est physiologique et naturel, Satan arrive à le salir parce que c'est normal. Il y a des choses qui sont tout à fait normales et mécaniques, sinon les petits garçons de 13 ans sont tous des pécheurs sur la terre sans avoir jamais regardé de la pornographie. Mais ce qui était normal et naturel, Satan arrive à le souiller par deux choses. Il arrive à le souiller parce qu'il arrive à y intégrer de la pornographie. Et il arrive à intégrer de la dépendance. Et c'est ça qui rend cela mauvais. Mais si cela n'est pas intégré, ça reste naturel. Vous voyez la différence? Donc faites très attention à ce que votre sexualité ne soit pas souillée par ces deux infiltrations qui sont clairement condamnées comme de l'impudicité, qui sont la pornographie et la notion de dépendance après. Donc faites très attention. La ligne est très fine. Je ne prétends pas qu'en une réunion, on puisse régler ça. Je pense qu'il faudra certainement faire des groupes de parole et des choses, sauf qu'on est dans l'intime, donc c'est très difficile d'en parler. Mais attention, ne rajoutez pas des règles à la Bible. Condamnez ce qui est condamné, mais ne faites pas comme des églises évangéliques ont fait pendant des années, des catalogues la redoute de péché, et il y en a tellement qu'après on est paumé, quoi. On a dit que le cinéma était interdit à un moment, on a dit que les cheveux courts étaient interdits, que le fait d'avoir des boucles d'oreilles était interdit, puis je vous ai fait que les femmes à la Sainte-Seine c'était interdit, alors que ce n'était pas le cas dans la Bible. Donc attention, ne rajoutons rien, soyons très stricts sur la vérité. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Parce que sinon, on va mettre des jeunes gars, et j'ai terminé avec ça en disant, je suis triste de tous mes copains qui n'ont jamais osé prendre la Sainte-Seine, parce qu'ils étaient brûlés dans leur tête, culpabilisés comme des moribonds parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer la sexualité. Pour eux, tout était péché, donc du coup, ils étaient sales. Ils arrivaient le dimanche, ils ne prenaient pas la Sainte Seine et ils se disaient, quitte à pécher, autant y aller franchement. Et ils faisaient ce que Jésus disait aux pharisiens. Ils ont tellement voulu filtrer le moucheron qu'à la fin, ils ont avalé des chameaux. Et la plupart de mes amis, en ne gérant pas cela de façon mécanique, sont devenus, ben, pour le coup, vraiment dans le péché, en intégrant de la pornographie, puis après, ne suffisant pas, en allant chercher quelqu'un et en bâtissant des relations sexuelles qui n'étaient pas basées sur l'attachement. Et ça, c'est moche. Et ça, c'est sale. Et ça, c'est déshonore ton corps. Je ne dis pas du tout que je suis contre la sainteté. Je suis un farouche défenseur de la sainteté. Mais surtout, la vraie sainteté. La sainteté qui est biblique et strictement biblique. Strictement biblique. Et ne rajoutons rien, n'enlevons rien non plus. La cuirasse, c'est extraordinaire parce qu'il ne nous dit pas « justifie-toi ». Il ne dit pas « rends-toi saint pour prendre la Sainte Seine ». Il est dit « enfile la cuirasse ». Parce que cette cuirasse vient du ciel. Cette cuirasse, elle ne sait pas ta peau. Cette cuirasse vient protéger ton cœur. Parce que la cuirasse protège le cœur. Et cette cuirasse, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été forgé sur le mont Golgotha. Cette cuirasse, elle était forgée au calvaire par le sang de Jésus. Elle est resplendissante parce que quand Dieu te voit, c'est pour ça que j'ai mis une cuirasse qui resplendit. Quand Dieu te voit, au lieu de voir ta peau qui est souillée, Dieu voit cette couverture extraordinaire, ce vêtement de justice qui est la cuirasse de Jésus. Et pourquoi ça resplendit? Pourquoi j'ai pris une image qui brille? Parce que quand la lumière de Dieu arrive sur toi et zoome sur ton cœur, au lieu de voir tes péchés et ta faiblesse, c'est extraordinaire. Il est ébloui par le reflet de Jésus. Il ne voit plus ce que j'étais, mais ils voient Jésus. Et ça fait que je peux aujourd'hui mettre devant vous, comme toute personne dans cette salle, et dire « Je suis libre de m'engager avec Jésus. Je suis juste, non pas par mes propres œuvres, mais justifié parce que le sang de l'agneau a payé extraordinaire, a nettoyé, a lavé tous mes péchés. » Sans cela, vous êtes des pharisiens. Et vous allez vivre le combat de façon très défensive avec votre peau au lieu de défendre avec la grâce de Dieu. Alors, deuxième partie aujourd'hui, ça va être un seul verset parce que j'ai peur d'être trop long, donc j'ai préféré réduire le thème. J'avais prévu de faire les chaussures et le bouclier, mais on va simplement se limiter à ce qui est marqué dans le chapitre 15, au verset 15. Mettez, ça s'affiche sur vos écrans, vous lisez avec moi, deuxième partie, mettez pour, vous n'êtes pas là, je ne vous vois pas, mettez pour, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Regardez les chaussures. L'apôtre Paul les connaissait bien. Ça, c'est des chaussures que portait l'armée romaine. On est du cuir avec des lacets et avec des clous pour pouvoir tenir sur des kilomètres et des kilomètres. Je vous rappelle que les légions, la guerre, c'est une guerre de mouvement. C'est très intéressant parce que autant la première arme, elle est très défensive. Quand on parle de la ceinture, est-ce que c'est défensif? Oui, c'est défensif. Est-ce que la cuirasse est défensif? Oui, c'est défensif. Mais l'apôtre Paul dit, attention, ne restez pas statique à subir. Mettez à vos pieds des lacets et préparez-vous à bouger. Tous les grands généraux n'ont gagné les batailles que parce qu'ils bougeaient. Un chrétien qui est uniquement défensif en disant, Seigneur, protège-moi, j'ai que des attaques spirituelles. Au bout d'un moment, tu deviens fou parce que l'ennemi te renferme et comme tu es bloqué dans un coin. Alors l'apôtre Paul dit, mettez à vos pieds les chaussures. Alors, il est parlé du zèle. Alors on va faire l'analyse en grec parce que les mots, c'est assez difficile à traduire et je voudrais être très, très précis. Voici le premier plan que j'avais préparé hier, que j'ai dû changer, que j'ai dû mettre à la poubelle. Mettez lacets, sois motivé et prêt, sois préparé. C'est ça le deuxième mot, le mot zèle. On traduit par zèle, mais dans certaines versions, vous avez prenez les dispositions ou les disponibilités. C'est la notion de préparation en grec. Etoimazo. Et pour l'évangile de paix. Alors, du coup, si vous avez ce genre de prédication, j'en ai entendu plein, je les ai prêchés. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai failli prêcher. Pourquoi t'es pas venu à la réunion jeudi dernier? T'as pas mis tes lacets. Qui c'est qui a lu sa Bible ce matin avant de venir au culte? Qui c'est qui a pris un temps de louange hier? Vous n'êtes pas assez motivé. Vous manquez de zèle. Comment ça se fait que tu as fait sauter le culte de famille là, cette semaine? Soi-disant, tu étais fatigué, d'accord. Tu as donné un accès au diable. Et l'évangile de paix, il est où dans ta vie? Et en faisant cela, la seule chose qu'on zoome, c'est le manque de zèle. Et du coup, la prédication serait « Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Comment ça se fait que tu manques de zèle ? Il y a ici des chrétiens qui manquent de zèle. Comment ça se fait qu'il n'y avait personne pour nettoyer l'église ce matin avec les chaises, avec David ? Comment ça se fait que vous étiez en train de dormir alors qu'il y en avait quelqu'un qui était en train de travailler ? Vous n'avez pas honte ? » Et on peut prêcher là-dessus. Dans la vérité, il y a deux types de personnes dans cette salle. 90% et 10%. 90% vous culpabilisez de ne pas en faire assez. Vrai ou pas vrai ? Vous culpabilisez. Souvent, vous dites, j'aimerais faire plus, je devrais faire plus, je voudrais lire plus ma Bible, je devrais être plus sérieux dans mon temps de prière avec Dieu, je devrais être plus fidèle aux réunions de semaine, je devrais rejoindre le groupe Connexion, c'est pas normal alors qu'on m'a dit 4 fois déjà qu'il existe à côté de chez moi, je ne sois pas allé. Et je peux vous dire, vous manquez de zèle, faites plus d'efforts. Et il y a un deuxième type de personnes, 10%, qui sont épuisées, qui font et qui font tout, parce que c'est dans votre personnalité, si on vous dit de faire, vous faites toujours de plus en plus. Vous êtes fatigué, vous êtes brûlé et vous en devenez amer. Et au bout d'un moment, vous allez voir votre pasteur en disant, pasteur, c'est bien gentil, hein, mais on s'en sort plus dans cette église. Il n'y a pas assez bénévoles impliqués. Et quand je fais les réunions des fois avec les directeurs de service, c'est le bureau des plaintes et des gémissements. C'est tout le monde dit, comment ça se fait, pasteur, que nous, on se retrouve à être épuisés, etc. Et pendant ce temps-là, tout le stade, là, ils regardent et ils font rien. Donc ce matin, on est pareil. Voilà, il y a 90% qui culpabilisent de ne pas faire assez et il y a 10% qui sont tellement épuisés qu'ils ne savent plus pourquoi ils font. Et si jamais je faisais le plan simplement disant « Mettez lacets, sois motivé, C'est pour l'évangile, ok? Eh ben, tu vas dire, ok, bon, d'accord, le pasteur nous a dit ça, jeudi prochain, je vais faire l'effort de venir. Mais jeudi d'après, je ne te verrai plus. Hein. Tu vas faire une distribution alimentaire à la bienfaisance, tu vas soulager ta conscience, et au bout d'une semaine, tu vas dire, pasteur, je suis en échec spirituel. Je suis resté dans mon lit ce matin. C'est pas tout à fait ce que dit le grec, et c'est extraordinaire. Vous connaîtrez pas l'échec. La question de l'apôtre Paul, c'est pourquoi je vais faire ça? Écoute bien. Pourquoi je marcherai? Et c'est presque en deux mots. Pourquoi? Quelle est la cause de tout ça? Alors, il faut inverser le plan. Regardez sur vos écrans, il faut inverser. Le plan, ça doit donner ça. Grâce à l'évangile. Si ma communion, si je réalise ce que c'est que l'extraordinaire évangile de paix, je trouve de la motivation. Cette motivation me permet de me préparer et me donne envie de faire mes lacets. Et c'est ça que j'ai à cœur, parce que lorsque je préparais ce message, je dis, Seigneur, va falloir que je leur râle dessus hein, demain. Elle me dit, non, je veux que tu pries pour qu'ils retrouvent une passion pour l'évangile de paix. Je veux qu'ils retrouvent une passion pour l'évangile de paix. Parce que si vous avez une passion pour l'évangile de paix, alors vous mettrez vos lacets, vous ferez tous les efforts du monde. Et pour vous, ça sera un plaisir de vous lever pour aller à la bienfaisance, pour aller servir le café, pour aller nettoyer les choses sales qui sont à la sortie de l'église et que personne n'a envie de faire. Voyez, je vous dis, votre problème, c'est pas que vous en faites pas assez. C'est la conséquence, mais la vraie cause, c'est que vous avez fini par oublier ce qu'était l'évangile de paix. Moi, j'ai la chance d'être pasteur et d'avoir les témoignages de personnes qui sont bouleversées grâce à l'évangile de paix, grand hein, l'évangile de paix. L'évangile, une bonne nouvelle de Christ, salut, la proclamation de la grâce de Dieu manifestée, une garantie à vie extraordinaire. Est-ce que tu te rappelles ce que tu vivais avant ton baptême? Qui est baptisé depuis plus de 5 ans? Levez la main. Baptisé depuis plus de 5 ans. Voilà, vous avez des soucis, vous. Voilà, tous ceux qui ont levé la main, vous avez des soucis. Parce qu'au bout d'un moment, on finit par oublier. Vérité, on oublie nos angoisses d'avant. Quand tu te couchais le soir et tu dis « si je fais un AVC », fini. Je suis une vapeur, il n'y a plus rien derrière. Tu oublies que le salaire du péché, c'était la mort. Et qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés. Sauf la bonne nouvelle, le nom de Jésus. Et c'est pour ça que à celui qui a connu la grâce de Dieu, il réalise qu'en dehors de tous ses efforts, il y a un homme, plus qu'un homme. Il était Dieu à Golgotha. Et il m'a aimé alors que je n'étais pas aimable. Il est mort pour mes péchés. Il a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et il me dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et par rapport à votre salut éternel, je vous ai préparé une place. Et il y en a qui meurent sans connaître Jésus. Il serait peut-être temps que tu réalises la grâce que tu as. Parce que c'est ça le moteur de toutes tes autres actions. Si tu oublies ce que c'est que l'enfer, et si tu oublies ce que c'est que le paradis, tu perds ton moteur. Est-ce que tu réalises que c'est vital, il y a une course contre la montre pour le salut, et que tu as la chance d'être sauvé? Gratuit, acquis. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, lorsque vous avez réalisé l'Evangelion, et pourquoi je dis de paix? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez lu ce que dit l'apôtre Paul juste un tout petit peu avant dans Éphésiens. Je vous démontre bibliquement que c'est bien dans cet ordre-là qu'il fallait prendre le texte. Éphésiens, au chapitre 2, verset 1er, dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés. Par vos actes, vous conformiez alors votre façon de vivre à celle de ce monde. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant les hommes rebelles à Dieu. » On était comme ça. Eh oh! N'oubliez pas d'où vous venez. Et l'apôtre Paul le dit, n'oubliez pas d'où vous venez. Même les pharisiens évangéliques. Nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous avions des désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et c'est pour ça, et c'est spirituel, on est bien dans des armes spirituelles. Nos vies, on avait l'impression de les diriger, mais Satan tirait les ficelles. Et il va plus loin, il dit, oh, à propos de Jésus, mais Dieu est riche en bonté, et à cause de son grand amour, il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns avec les autres, et Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par notre union à Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Eh, vous êtes sur la terre, vous êtes dans le monde céleste. Les deux. Parce qu'au ciel, là-haut, il y a une petite place à votre nom. Ce n'est pas comme ce qui a marqué en bas, là, réservé, là. Vous savez, vous avez vu ces pancartes réservées, là, dans l'église, là, en blanc, il a marqué réservé. Mais il n'y a pas le nom, là. Et bien, dans le ciel, dit, je vais vous réserver une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Tu vas arriver. Bienvenue chez toi, Héloïse. Hop, tu rentres. Ouais ! Dans les lieux célestes. Le combat n'est pas que terrestre. Il y a des choses spirituelles. Tu es sauvé. Tu réalises ça. Ça te rebooste. Et il le dit, c'est extraordinaire. Il dit, afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de la grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de vos œuvres que vous auriez accompli. Donc comme ça, personne n'a raison de se vanter. Wouh ! Tu l'as oublié, ça. Regardez la photo qui s'affiche. Ces barbus-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Là-dedans, il y a plein de pasteurs, aujourd'hui. C'est tous hippies et drogués à la base. Là-dedans, il y a Guy Bergamini. Il y a Balverde. Il y a Vergnol. Il y en a plusieurs. Huot. C'était à l'église de Montbéliard. C'était un groupe de drogués qui traînaient devant l'église. Et alors, c'est étonnant parce que le pasteur qui les a accueillis, il a écrit un petit peu comment ça s'est passé. Alors c'est bien d'avoir des témoignages réels. Il dit, nous avons eu la joie de voir ces jeunes drogués arriver à l'église. Quand ils rentraient dans un bistrot, c'était eux qui faisaient la loi. Mais nous avions des chrétiens consacrés à Montbéliard et l'église priait pour que Dieu nous envoie des ouvriers dans la moisson. Drôle de casting, hein, pour lever des pasteurs. Mais bon. Une sœur directrice d'école et son mari avaient témoigné à ce groupe d'hippies. Et Dieu a fait une œuvre magnifique en eux. Certains sont devenus pasteurs, d'autres sont des chrétiens fidèles. La parole de Dieu les a changés. Et puis moi, ce que j'ai aimé, bon, il décrit les cheveux longs redoutables d'un qui était vraiment, bref, Michel, faut pas que je dise les noms. Et il y avait une hippie bien, bien déjantée dans son genre. Elle venait avec son fiancé et son chien. Un magnifique petit chien. Naturellement, la propriétaire était plus gentille que le petit chien. Chaque fois que Joël venait à la réunion, elle enlevait son manteau et le mettait par terre et mettait le chien dessus. Dans l'allée, là. Quelque chose, hein. Je suis content que ça ne soit pas arrivé à Créteil. Lorsqu'il y avait l'imposition des mains, notre sœur s'approchait avec les autres malades et le chien suivait. Et il fait une petite précision doctrinale, il dit... Je n'ai jamais prié pour le chien, même si je dois avouer qu'il était très fidèle. Terrible. Un jour, elle est venue au culte, et à la fin du culte, Joël est venu me voir, Monsieur Gichtener, le pasteur. C'est pas bien quand même de venir dans la maison de Dieu avec son chien, non? Je lui ai répondu, ben non, bien sûr. Ce qu'elle a répondu est resté gravé dans ma mémoire, elle m'a dit, Monsieur Gichtener, si vous m'aviez dit de ne pas venir avec mon chien la première fois, je ne serais plus jamais revenu parce que j'avais personne pour le garder. Vous savez, quand vous oubliez la raison pour laquelle l'Évangile est prêché, et que ce sont les règles de l'Église, et plus l'Évangile de paix qui est le moteur, on aboutit à des échecs. Je sais que vous allez me dire, mais pasteur, on va pas du coup, c'est pas un chenil l'église. Tout le monde va pas arriver avec n'importe quoi. Non, on ne vient pas avec son chien, puisque l'idée c'est que s'il fait wouf, 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 je vais pas pouvoir suivre mon culte. Mais c'est comme la même façon que j'éteins mon portable. Parce que mon objectif c'est que l'évangile de paix puisse être proclamé. Mais maintenant, et c'est vraiment notre mentalité, que tout soit fait pour que l'évangile de paix puisse renverser les murs. Et c'est l'apôtre Paul, il écrit, il dit, Christ est ma paix. Car il a renversé le mur. Et c'est un juif qui parle. Un juif, l'apôtre Paul, qui considérait les Grecs et les Romains comme les plus grands truands du monde. Ces collabos, ces envahisseurs, comme la France en 45 avec les Allemands. Et il dit, il est ma paix parce qu'il a renversé le mur qui séparait les Juifs des non-Juifs. Je vous ai dit que j'ai compris pourquoi j'ai appelé cette église Martin Luther King, parce que je suis blanc. Parce que je suis très blanc, même pas bronzé du tout. Et je trouve que c'est extraordinaire de dire que l'évangile, et je suis carrément scripturaire quand je dis ça, l'évangile non seulement amène les gens au salut, mais ça amène des changements dans les vies sur la terre. Parce que j'avais aucune chance d'être copain avec autant de blagues que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un burger. Je suis blanc à l'extérieur, black à l'intérieur. La viande à l'intérieur, c'est black. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça transcende les cultures. Et quand tu fais ça, les gens se disent, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et même les gens de ce monde se reconnaissent en disant, wow! Pour que des personnes qui n'avaient aucune chance de se rencontrer deviennent amies comme ça. Il y a quelque chose qui les a liés. Ah, il y a quelque chose! Jésus! C'est Jésus, l'évangile de paix qui a transformé ma vie. Vous savez, quand je suis en entretien, que j'écoute les histoires, oh, je suis désolé, vous ne les entendez pas assez. Vous voyez, il y a trop, le problème des pasteurs, c'est qu'on peut être tenté de raconter tout ce qui ne va pas et dire faites-en plus, faites-en plus, faites-en plus. Quand je suis à la réunion des directeurs de service, j'essaie toujours de raconter des histoires véridiques, vécues, de personnes qui ont leur vie transformée. Parce que c'est ça l'évangile de paix. Vous ne venez pas pour des règles, vous venez parce que vous avez une passion pour l'évangile de paix. Et parce qu'il a renversé des murs. Vous oubliez quel était le mur, mais je peux vous dire, il en a renversé des murs. Des grands murs, en plus du salut éternel. Moi, je pense à Aline qui était dans mon bureau il y a quelques années. Je la voyais. Aline, c'était très bizarre parce que je pleurais et elle souriait. Alors, j'ai jamais compris. Elle me racontait son histoire. Plus elle me racontait son histoire, plus je pleurais et plus elle restait zen, elle. Spirituelle, pardon. Erreur de langage, le mot zen, on va oublier. Elle restait, non, parce que c'était pas Bouddha qu'elle avait rencontré, c'était Jésus. Et Alide, elle disait, mon mari est emprisonné, mes enfants sont détruits, je suis maintenant divorcée, j'ai pas d'argent pour finir les fins de mois, et je viens de rencontrer Jésus et je suis super heureuse. Oui, alléluia. Deux ans plus tard, parce qu'Aline, elle est fidèle, deux ans plus tard, je voyais les enfants qui étaient de plus en plus heureux, qui retrouvaient leur joie de vivre et qui commençaient à courir, à sentir chez eux dans cette église. Puis un jour, Aline m'a dit, pasteur, je pars à La Réunion. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, parce que mon mari est sorti et vient de rencontrer Jésus, mon ex-mari. Elle me dit, l'évangile vient de rentrer dans sa vie, on va se remarier. Ils se sont remariés. Vous voyez, c'est ça l'évangile de paix. Et vous savez, je ne vous dis pas de venir le jeudi à La Réunion pour juste venir le jeudi à La Réunion. Je dis, si vous ne venez pas, c'est que vous n'avez pas compris qu'il y avait une puissance. Il y a des choses qui se passent. Et que ton moteur a besoin d'être revigoré, reboosté par Dieu. Ce n'est pas des « il faut » dont tu as besoin. C'est une révélation de Dieu fraîche parce que tu es en train de vieillir. Et que tu es en train d'être tellement dans le combat défensif en disant « Oh, j'ai des attaques spirituelles. Encore une attaque spirituelle. Oh là là, ça ne va pas. » Bouge. Mais bouge comment? Avec cette passion, ce zèle que donne l'évangile de paix. Vous allez me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup de dons. Qu'est-ce que je dois faire ? » Bouger, bouger pour aller où ? Il y a plein de façons de bouger. Hein. Vous savez ce qui mobilise les êtres humains sur la Terre ? En général, ils se bougent pour faire des bêtises. J'ai regardé une vidéo, c'est possible de mettre la vidéo de Boban, un joueur de foot exceptionnel, un croate. J'ai vu cette vidéo cette semaine, ça m'a tellement marqué. Quand on parle de mettre des chaussures, lui il a mis des crampons. Mais regardez comment il a utilisé ses crampons. On est en ex-Yougoslavie. C'est juste avant la guerre qu'il va faire des milliers de morts. Le footballeur croate, il est tellement énervé contre les Serbes qu'il va utiliser ses crampons pour aller taper un policier. Qui essaye de protéger les supporters qui allaient se faire lyncher. Vous savez, on met des chaussures. On met tous des chaussures un jour. Pourquoi on les met ? On peut mettre des chaussures pour proclamer la guerre. Merci, merci. J'ai pas un des commentaires du match. On peut mettre des chaussures pour n'importe quoi. Il y en a dans votre entourage qui vont mettre les chaussures de l'ambition. La seule cause qu'ils ont, c'est eux-mêmes. Il y en a qui vont faire des chaussures pour des conflits. Et ça, c'est motivant, vous voyez. Vous avez des collègues, elles ont des langues, mais voilà, dès que ça commence à partir et que c'est négatif, vous voyez les chaussures, elles sont boostées là. Que Dieu soit l'évangile de paix, soit la source de ton zèle et la raison pour laquelle tu enfiles tes chaussures. Et tu vas mettre, et taimazo en grec, une cause. Tony Barnett a créé une église extraordinaire, plus de 10 000 personnes à Phoenix en Arizona. Son père était pasteur et un jour son fils a désiré devenir pasteur. Pas bon. Vous savez, c'est cool de naître dans une famille chrétienne, sauf quand il faut penser à servir Dieu. Parce que quand vous êtes né dans l'évangile, vous n'avez pas une histoire fracassante à raconter de qu'est-ce qu'il y avait avant. Hein. Pépé était chrétien, Pépé était pasteur. Papa était chrétien, papa était pasteur. Ils ont réussi. Pour ceux qui sont entourés, là, tous ceux qui ont des frères, des sœurs, des tatas, des tontons qui sont des modèles spirituels, c'est pas facile pour vous. Parce que vous voyez les autres qui ont une vraie cause, une façon de vivre, une motivation, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Et le fils, donc Matthew, il a écrit un livre, je l'ai pris là, mais c'est « La cause qui est en toi ». Parce qu'il a dit, il s'est dit, bon, je vais faire comme mon père et comme mon grand-père, je vais être pasteur. Il a commencé il a repris une église qui faisait 100-200 personnes à Bethel, en Californie. Et quand il a pris l'église, il a jeûné, il a prié, il a bossé ses messages, il a récupéré les meilleures anecdotes qu'il pouvait, il a structuré. Et au bout de quelques temps, l'église avait été divisée par deux. Et tout le monde a commencé à dire, vraiment le gars, c'est un fils à papa, il n'a pas de ministère. Alors qu'il était en pleurs, brisé à 4 heures du matin, il est dans les rues de Los Angeles. Alors vous voyez, du zèle, il en avait. Il avait mis ses lacets. Mais il y avait quelque chose qu'il avait peut-être un peu oublié comme toi. Parce que tu es tellement né dedans. Alors qu'il est dans les rues de Los Angeles, il y a un SDF, un clochard drogué, pas très clair, qui vient le voir, qui l'accoste et qui lui dit « Je vais tellement mal ». Lis-moi un passage de la Bible qui me remonte le moral. Il ne demandait pas une prédication, il dit « Lis-moi un passage de la Bible qui me remonte le moral. » Et en lisant le passage de l'évangile de paix, Matthew Barnett qui avait un ministère raté et ce clochard qui avait une vie ratée se sont rencontrés tous les deux. Et en lisant la Bible, il a retrouvé son feu, il a vu le clochard qui commençait à pleurer, à louer Dieu. Quelques temps après, il a commencé à faire ça plusieurs nuits de suite. C'est drôle hein, comme ministère, c'est drôle comme cause. Et Matthew Barnett a écrit ce livre qui dit « La cause qui vit en toi ». Dieu t'a appelé pour une raison. À toi de mettre tes lacets pour la cause que Dieu a mise en toi. Vous savez, aujourd'hui, il est le directeur du Dream Center à Los Angeles. 15 000 personnes, plusieurs écoles, un foyer de réinsertion pour les ex-prostituées. Un foyer de réinsertion pour les drogués. Plusieurs écoles pour les enfants des rues. C'est extraordinaire. C'est une des plus belles œuvres sociales qui est faite aux États-Unis, en Californie, par un pasteur qui avait un ministère raté. Parce que la cause qui est en toi et qui est la source de ton zèle, c'est l'évangile de paix. Et que la seule chose que Dieu veut mettre en toi, c'est pas des règles et de la structure. Ça, tu le fais puisque tu as le feu en toi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, retrouve la cause, qui est l'évangile de paix. C'est celle-là qui va qui va te redonner l'enthousiasme pour marcher et arrêter d'être défensif dans ta vie. Je termine parce que c'est l'heure. Dieu n'attend pas que tu sois un pasteur. Il y a très peu d'ailleurs, le mot pasteur il apparaît quasiment jamais dans la Bible. Il est parlé des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes. Il est parlé de ceux qui ont le don d'hospitalité. Vous lisez le livre des Romains. Il dit que celui qui donne le fasse, le ministère de donner. Ah mais je sais ce qui se passe. Pour certains d'entre vous, honnêtement, votre vie c'est quoi? C'est métro, boulot, dodo. Et vous avez tellement peu de temps parce que vous avez connu la galère financière avant qu'aujourd'hui, vous vous donnez corps et âme pour votre travail. Je parle notamment aux hommes. Et quand on vous regarde et puis on se dit, qu'est-ce que tu fais pour Dieu, toi ? Eh bien, moi, je vais te dire ce que tu fais pour Dieu. Lorsque tu donnes financièrement. Ce que tu fais là, c'est un ministère. Alors, il faut arrêter de croire que c'est celui qui parle qui a le ministère. Parce qu'à chaque fois que tu fais un don, c'est un service que tu rends à Dieu. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille comme un fou furieux et qui gagne très bien sa vie. Et aujourd'hui, ce qu'il donne, c'est l'équivalent d'un salaire d'un pasteur, à lui tout seul. Et c'est génial ! Parce que c'est aussi une façon de servir. Alain a reçu un don, mais fais-le à fond, sans arrière-pensée. T'as eu une augmentation, t'as fait des heures sup. Tu dis, Seigneur, ça, c'est pour toi, parce que l'éternel est la priorité de ma vie. Alors que si les heures sup deviennent ton moteur, vous voyez la différence ? Il y a deux façons de vivre votre vie. Soit vous le vivez en disant, ma vie sert à rien. Soit vous dites, je le fais parce que j'ai une cause. J'ai une cause lorsque je vais à la bienfaisance, j'ai une cause. Il est dit que celui qui exerce le service, diakonos, le fasse avec sérieux. C'est nettoyer les WC. C'est pas le papier que tu changes. C'est le fait que les personnes viennent dans un lieu et disent, waouh, ici c'est propre. Ici, c'est un lieu où on change des vies. Et même les toilettes sont agréables. Je peux vous dire une chose. Hein. La première chose que je vais voir quand je vais voir dans une église, c'est les toilettes. Parce que si les toilettes déjà ne sont pas propres dans l'église, je ne reviendrai jamais. Hein. C'est une cause. Une cause, c'est les personnes que Dieu veut gagner à l'évangile de paix. Est-ce que tu as une cause ? Vous savez, quand on est dans le grand 3, fêter lacets, il est dit, sois préparé et une fois que tu es préparé, si tes lacets ne sont pas faits, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez, Jeux Olympiques, 10 compétiteurs et un guignol qui n'a pas fait ses lacets. Boum ! Quand le pistolet tire. Tu perds ta chaussure, c'est fini. C'est terminé. Il était motivé, il s'était entraîné pendant des années, si t'as pas fait tes lacets. Et le problème, c'est que on essaye tous d'anticiper le « poum ». Mais la vérité, c'est que le « poum », c'est pas nous qui le donnons. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si t'es pas prêt, quand ça vient, tu le rates. Moi, hier, je suis allé dans le métro, je déteste le métro. Il fait chaud, en plus, quand il fait chaud. C'était bondé, heure d'affluence. Seigneur. Je faisais la tête pour monter dedans. Et tout d'un coup, j'ai une pensée qui venait, une motivation. Je dis, Seigneur, plutôt que subir cette demi-heure, s'il te plaît, envoie quelqu'un à qui je puisse faire un sourire ou pour qui je puisse prier ou peut-être parler pour donner du sens à cette heure. Vous voyez le truc ? Ça, c'est inverser le système. Au lieu de subir ta vie, tu la vis vraiment. Au lieu de dire, l'évangile, faut que je fasse. Seigneur, renouvelle mon zèle, ma passion, que mes tripes soient bouleversées, parce que ça donne du sens. Je termine en disant, moi, j'ai la chance de voir ça. Hein. Je pense à Martine, elle vient un jour. Et pareil, Martine raconte sa vie. Oh, l'horreur. La cité, la violence, les tournantes, sa vie brisée, l'échec du premier homme, du deuxième homme, les enfants qui vont mal. Eh mais quand j'ai baptisé, je ne peux pas vous raconter ça. Hein. Je ne peux pas vous raconter les viols. Mais quand je vois aujourd'hui, alléluia, oui, l'évangile change les vies. Aujourd'hui, les bonhommes, ils sont à l'église des enfants, ils vont louer Dieu. Moi, je prie pour ces petits gars. Parce que là, l'évangile est en train de faire quelque chose. Alors peut-être tu ne vas pas la voir en entretien, mais elle existe, cette femme. Elle existe. Je peux te la montrer. Je ne vais pas le faire, mais je peux te la montrer. Vous voyez l'idée ? C'est retrouver le sens à ce que vous faites. Arrêtez d'être des machines du devoir et dites, Seigneur, renouvelle mon zèle. Donne-moi envie. Et laisse que mon cœur se laisse toucher par cette envie. On va fermer les yeux. Fais tes lacets parce que c'est en faisant que tu vas trouver. Alors les yeux sont fermés, Matthew Barnett dit que par rapport à tous ceux qui ont été bénévoles dans le Dream Center, il dit il y en a très peu qui savaient à l'avance ce que Dieu leur avait préparé. Dieu avait préparé des choses, mais c'est en faisant qu'ils ont découvert ce que Dieu avait prévu pour eux. D'ailleurs, c'est un principe très biblique. Alors que ton œil est fermé, que ta tête est baissée, je vais te dire, pourquoi le Seigneur investirait en toi si le peu qu'il t'a donné, déjà, tu le gardes pour toi? Si tu donnes déjà ce qu'il t'a donné, si tu utilises les ressources qu'il a placées en toi pour le bien des autres, alors Dieu va multiplier. Toutes les multiplications dans la Bible sont venues parce qu'un homme, une femme a donné le peu qu'il avait. Que ce soit ce garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons, une fois qu'il les a déposés, il y a eu des milliers de pains et des milliers de poissons. Voici ce que Dieu te dit, tu es défensif. Tu vis la vie comme un combat spirituel et tu le vois de façon négative. Du coup, l'adversaire t'a bloqué dans un coin et tu subis ta vie. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce matin, mets tes lacets. Parce qu'il y a plein de départs que tu es en train de rater. J'envoie des projets qui passent à côté de toi, mais tu ne les discernes pas parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête dans ta tête. Tu n'as pas fait tes lacets. Une cause, c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est ce qui me donne la force de donner mon dimanche matin pour Dieu. C'est une cause. C'est l'évangile. Ce qui me donne envie d'aller en soir de semaine et d'aller rencontrer d'autres chrétiens, c'est une cause. Ce qui me donne envie d'aller parler à ma voisine de Jésus, c'est une cause. D'être une lumière dans mon travail, c'est une cause. D'élever mes enfants avec patience, en expliquant encore et encore, c'est une cause. Accompagner quelqu'un qui est malade dans ma famille et lui remonter le moral, c'est une cause. Et c'est pour l'évangile de paix. Alléluia.
Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, assis en nous. La passion.
Feu dévorant,
Va garder un instant les yeux fermés. C'est sûr que tu cours. Ta vie, elle est remplie d'activités. Plein de tes activités sont imposées. Il faut bien manger, il faut bien vivre, je le comprends. Mais Dieu, regarde au cœur ce matin et dis, est-ce que tu as vraiment envie que je rafraîchisse ton cœur? Est-ce que tu veux un zèle nouveau? Dieu ne va pas s'imposer, il ne va pas te faire travailler pour rien comme ça, si jamais... Non, non, non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais Dieu veut te mettre une passion dans ton âme. Est-ce que quelqu'un entend cet appel? Tu te lèves à ta place, dis, Seigneur, je veux me lever pour toi. Lève-toi maintenant, maintenant. Ça concerne un homme et une femme qui se disent, Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai besoin d'être reboosté par toi. Ce que je le fais beaucoup par devoir. Je veux retrouver ma passion, Seigneur. Feu dévorant. Ranime en moi la passion pour ton nom. Alléluia.
Alléluia. Feu dévorant, assis en nous, la passion.
Je te prie pour que à chaque instant de cette semaine qui vient et les semaines après, je vois chaque regard, chaque petite fille, chaque garçon, chaque vieille femme, chaque homme que je croise, une personne qui a terriblement besoin de connaître l'évangile de paix. Seigneur, j'ai pas cette force en moi. Viens souffler sur ma vie. Embrase mon cœur à tout à nouveau. Je te prie pour chaque personne qui s'est levée ce matin. Parce que je crois que tu honores ceux qui t'honorent. Et tu es, quand tu vois quelqu'un qui met en premier le royaume et la justice de Dieu, tu donnes des opportunités de bénédiction. Merci pour ce temps ce matin. Sois loué au nom de Jésus. Amen.